présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Nous aimerions c'est pouvoir parler à vos parents, l'homme lui dit. C'est-à-dire? Oh, ce n'est rien de grave, juste une question, rien de plus.
Bien, entrez. Tais-toi! Tais-toi! Terrier!
Le chien se tait. Il les fait rentrer. La pièce est grande, sombre. Il y a une grande table de bois avec des bancs autour, un buffet. Près de la cheminée, assis sur des chaises, le père et la mère. Depuis fils s'approche de ses parents.
Il y a des personnes qui veulent vous parler.
Le père et la mère, qui sont de vieilles personnes, les regardent. Luc, lui, leur dit.
Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'aimerais savoir si vous connaissez cette personne.
Il leur montre le portrait. La femme dit,
oui, je le connais, c'est Monsieur Terman.
Luc lui demande, que venait-il faire chez vous et pourquoi?
Elle lui demande, pourquoi me posez-vous ces questions?
Qui dit, c'est parce que je suis le fils de Terman. Et elle rougit et lui dit, mais ne craignez rien, il est mort. Et puis, je ne suis pas vraiment son fils, mais adopté.
Alors, que venait-il faire ici?
Dieu dit à sa femme, tu peux lui lui dire « Maintenant, c'est vieux, tout ça. »
Elle lui dit « Eh bien, voilà, j'avais en nourrice un petit, un bébé, un garçon. Et M. Terman venait souvent le voir. Venait aussi sa mère. »
Il lui demande « Monsieur Terman, était-il le père du petit ?»«
Oui, il me l'a dit, mais le devait. » Ça devait rester secret, parce que lui et la mère étaient mariés, tous les deux, mais bien entendu avec des maris et femmes différents. Un couple du diable, illégitime, comme on dit. Moi, je ne m'occupais pas de ça. On soignait bien le petit, mais on sentait qu'il allait mal finir, parce qu'il avait du mauvais sang. Sang illégitime.
Luc est furieux. Il demande.
Vous connaissez le nom de la mère? La femme lui dit.
Attendez.
Ah, voilà. C'est madame Chanteclair.
Luc
devient tout rouge. Son corps bat très fort. Il demande. La Chanteclair domaine de Chanteclair?
Oui, celle qui est morte avec son mari à la révolution de 1830. Nous l'avions su parce que monsieur nous l'avait dit.
On a gardé l'enfant quelques années. Puis un jour le père l'a pris.
Il voulait le mener en ville. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit.
Luc se dit, je ne me souviens de rien, juste un trou noir, l'orage, la foudre. Sans doute, j'ai dû être pris par la foudre sur le chemin où il m'emmenait chez lui et m'a fait perdre la mémoire. Luc est effondré, tout pâle, et sort en courant de la maison en laissant le portrait. Franck le suit. Où vas-tu?
Luc lui dit, vers mon destin. Je suis damné. Je retourne là-bas.
Franck lui dit.
Luc.
Il se retourne vers Franck et lui dit.
Ma femme était ma sœur. J'ai aimé. J'ai couché avec ma sœur. Je suis damné.
Et se met à marcher.
Franck le suit. Où vas-tu?
En enfer. Je suis damné maintenant.
Oui. Je suis damné maintenant. Pour le reste de ma vie.
Arrivé au château, Luc lui dit.
Je prends un cheval.
Il court à l'écurie. Franck le suit.
Luc prépare son cheval. Il dit, je pars. Franck lui prend le bras et lui dit,
tu vas t'enfermer dans l'ignominie en allant là-bas. Non, je sais que tu vas te perdre.
Luc lui dit, je suis déjà perdu.
Alors, autant être bouilli, brûlé par le feu de l'enfer, ce sera moins dur que cette vie.
Franck lui dit,
secours, Luc. Luc.
Je me suis marié avec ma sœur pour échapper à l'amour d'une autre sœur. Et ceci parce que mon père avait fauté et que je suis le fruit de sa faute. Je paie le crime de mon père. Et je dois me sacrifier en continuant l'ignominie pour être avec les damnés. Le monde me rejette de toute façon. Oui, le monde me rejette de toute façon. Parce que je ne suis rien. Franck, les larmes aux yeux, lui dit, non, tu n'es pas rejeté. Moi, je t'aime. Et d'un geste brusque, il l'embrasse sur la bouche. Et lui dit, tu mourras de l'amour et non pas brûlé. Tu n'es pas damné. Luc lui dit, merci, mais mon destin est mon destin. Il se dégage. Et monte en selle. Il s'en va. Franck panique. Il se dit qu'il va se damner. Il va être pris. Il va être perdu. Il va là-bas. Il ne veut pas qu'il brûle dans le feu. Vite, il va chercher son cheval pour le suivre. Mais lorsqu'il s'en va, Luc est déjà parti. Il connaît le pays de Luc. Alors, il y va. Chevauche, fou de rage, dans la campagne. Le vent s'est levé, il frappe, il est froid. Il chevauche de plus en plus vite. Il est en nage. Il veut aller vers son destin. Le vœu, le rêve, le souhait. Il arrive où habite Jean. Il arrive où habite Jean, oui. En plus de vent, il y a l'orage. Il est trempé.
sonne. Au domaine de Jacques.
Domestique accourt au portail. Il demande
« Oui ?»
Luc, trempé, lui dit
« J'aimerais voir votre maîtresse. Je suis Luc, Thermann, son frère. »
L'homme lui dit
« Bien, entrez !»
Luc entre avec son cheval. Ils vont jusqu'à l'entrée du château. Ils donnent le cheval au domestique. Et le domestique le fait entrer. Il y a un autre domestique à la porte.
Oui, je suis Monsieur Luthermann et j'aimerais voir votre maîtresse.
Bien, monsieur, veuillez me suivre.
Et il le mène à l'étage. Au salon, le fait entrer.
Entrez, monsieur.
Il y a un bon feu. Domestique l'a laissé. Luc reste debout au milieu de la pièce.
La porte s'ouvre. Et apparaît Jean, en robe écossaise, en dominance rouge. Elle est très belle. Elle le voit. Luc debout, trempé, mais beau. À ce dernier, elle accourt à lui.
Luc.
Oui. Elle se penche son cou.
Je suis heureuse. Oh, Luc. Tu es enfin de retour.
Il lui dit.
Oui. Et pour toujours. Nous allons mourir ensemble.
Elle l'embrasse. Se sent très fort. Contre lui, il lui dit
« Il n'y aura que la mort qui pourra nous séparer maintenant. »
Il caresse le visage et lui dit
« Mais tu es tout mouillé. »
Et il lui dit « Ça n'a pas d'importance.
Enlève ton manteau. »
C'est ce qu'il fait. Il tombe à terre.
Jean lui dit près de la cheminée, te réchauffer.
Ils y vont. Elle lui quitte sa veste. Elle lui demande
« Tu veux boire quelque chose ?»
Il lui dit
« Oui, un filtre d'amour. »
Elle lui dit
« N'en avons pas besoin, puisque tu fais partie de moi et tu es revenu. J'ai du cognac pour fêter ton retour.
Oui, ce sera parfait. » Elle va lui chercher dans le coin du salon une bouteille de cognac. Je ne sais pas qu'elle prend la bouteille de cognac qui a de l'arsenic, voilà, de l'arsenic dedans. En deux verres. De serre. Assieds-toi à terre. Ça sert à terre pendant la journée. Lui donne le verre. Tiens. Elle se serre. Et s'assoit près de lui. Il boit en silence. Il lui dit. Après ça. Je suis complètement enivré par toi. Elle lui dit, moi aussi, nous ne peut-on plus jamais. Elle lui dit, non, plus jamais. Elle s'allonge à terre, près de la cheminée, s'allonge à ses côtés, tous les deux, la tête sous leurs bras, regardent le feu pétiller, les flammes. Les éclairs et rendent leurs yeux lumineux. Il n'y a pas d'autre lumière dans la pièce. Elle lui dit, je suis heureuse, si tu savais, moi aussi. J'ai compris que ça ne servait à rien de fuir son destin. On est né pour ça. Et on ne peut pas aller contre. Si l'on est damné, on le reste. Elle lui demande, pourquoi est-ce que tu parles de damné? Il lui dit, peut-être que la damnation, pour certains, est plus belle, plus noble que la pureté. Et puis, qu'est-ce que la pureté? La pureté veut dire quoi? Et puis, on peut lui faire dire n'importe quoi. Et puis, la pureté vient d'un quelque chose. Tu es bien triste. Je lui dis non, je suis enfin heureux. Je me sens très bien, je suis avec toi. Tiens, buvons toute la bouteille ce soir. Tant pis si l'on est ivre. Et ils se servent. Après avoir bu, ils se sentent bien. Il a chaud. Elle lui dit, si tu savais comme je t'ai attendu, mais plus rien ne nous séparera maintenant. Il lui dit, je te jure, si quelqu'un se met entre nous ou contre nous pour nous empêcher d'être heureux, je le tue. Elle pose sa tête sur sa poitrine, laisse un long moment comme ça sans rien se dire. De temps en temps, ils boivent. Le temps passe. Au bout d'un moment, elle lui dit, j'ai froid. J'ai très froid. Je me sens bizarre. J'ai l'impression de partir. Il l'en lance bien, lui dit, doit être le cognac. Ils rient tous deux, ils sont heureux. Lui aussi, sans des raideurs. Il lui dit, ce filtre d'amour agit drôlement. Et Je sers encore un verre. Ils se tiennent bien lancés, heureux. Dans ce temps, Franck croit que Luc est allé à la ferme du diable, et trempé, épuisé, le rage fait rage. Arrivé à la ferme, il trouve le lieu lugubre. Descend de cheval et va frapper à la porte. Attends, rien. Une porte est ouverte en haut.
Oui. Il voit un jeune homme, les cheveux en broussaille, sale. Oui, il semble sale.
Qu'est-ce que c'est?
Franck lui dit. Bonjour monsieur, j'aimerais se parler à votre frère, Luc.
Mon frère? Mais il n'est pas là. Pourquoi pensez-vous qu'il soit là?
Franck lui dit. Il était parti retrouver sa famille. Alors, Yann lui dit,
Luc, de retour, attendez, je descends.
Franck attend.
La porte est ouverte. Entrez. Franck entre.
Je vous remercie, je suis trempé.
Il fait sombre. Ça sent mauvais. Et tout est en désordre. Des bouteilles de partout. Des saletés. Yann est sale. Sale.
Il lui dit, asseyez-vous.
Il va s'asseoir à table.
Yann lui demande, alors, Luc, est de retour, ce salopard.
Franck lui dit, oui.
Vient de s'asseoir en face de lui. Et se sert à boire avec dans un verre sale. Franck ne boit pas, ça le dégoûte.
Yann, qui s'embrouille, ivre, dit « Ah, Luc est de retour.
Hé !» Il vient prendre, c'est bien, enfin ceux de ma famille, parce que lui est un enfant de l'assistance. Le fumier, mais je ne le laisserai pas faire. Je sais, c'est qu'il a dû aller chez Jeanne. Ma sœur, cette traînée, je les déteste. Ils vont sûrement se mettre ensemble après le crime qu'ils ont fait. Mais je vais les empêcher. J'ai la preuve de leur crime.
Il se lève.
Je vais y aller.
Franck lui demande.
Où? Chez Jeanne. Et je leur dirai. Je vais les dénoncer. Et puis je vais les tuer tous les deux.
Il prend son fusil qui est accroché au mur.
Franck panique, se lève. Va à lui.
Non, vous n'allez pas faire ça. Je vous l'interdis.
Vous allez, je vais aller les prévenir.
Il court vers la sortie. Yann vise
et a tiré. Ah! La balle a touché la nuque de Franck qui est tombé la tête la première. Yann dit, pauvre salopard, va. Tu étais de son côté, salaud, va. Et il lui donne un coup de pied pour pouvoir passer et sort. Il fait de l'orage, un gros orage, avec du vent. Avec son fusil, furieux, ivre mort, il prend le cheval de Franck, ivre mort, il prend le cheval de Franck, et part dans la nuit. Et l'orage. Il va d'une traite jusqu'au château de Jean. L'orage est très fort. Il pousse le portail en restant sur le cheval. Et entre dans la propriété. Il est tard, les domestiques sont bien au chaud chez eux. Luc et Jeanne sont enlacés, allongés, près du feu. Leurs membres se raidissent, engourdis par le cognac. Ça les rapproche encore plus. Ils sont heureux, plus rien ne peut les séparer. Ils ont bu le filtre d'amour et de mort. La porte s'est ouverte d'un coup et ils voient. Essoufflé, Yann trempé, un fusil à la main. Vous êtes là? Tu es là, salopard? Toi, qui as déshérité notre famille. Ils se lèvent tous les deux, se prêtent par la main. Yann leur dit, vous faites un beau couple. Ils visent, Luc fait, non! Yann a tiré, mais les coups ont salé sur le mur. Luc, vite! Prends un coup de feu. Et le lance. S'attraper le bras de Yann. Tu fais tomber l'arme à terre. Yann furieux lui dit, je vais vous dénoncer. J'ai la preuve. Que tu as cousé, tu es le cousin de Claire et on vous guillotinera. Lui demande quelle preuve. J'ai chez moi la bourse de Jeanne qui l'accuse. Alors, Jeanne a pour été à Luc.
Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il nous sépare.
Je te dis,
moi non plus.
Et derrière,
tu me donneras cette preuve, hein?
Yann,
Levis, Luc, d'un bon plonchonnier. Et le fait tomber à terre. Ce qui met en marche le fusil. Ils se roulent l'un sur l'autre. L'arme est allée plus loin. Jeanne les voit apeurés se battre. À peur. Elle m'a donné un coup de feu. Il se soulève, puis roule. Il roule dans la pièce. En roulant dans la pièce, ils sortent tous les deux et roulent dans les escaliers. En bas, il continue à se battre, il n'en peut plus. Alors, elle prend le fusil et a tiré, ce qui le fait sursauter. Ils arrêtent de se battre. Luc et Soriane, ils le lâchent. Yann en profite pour se sauver et crie. Je vais vous dénoncer à la police et vous serez tous les deux guillotinés. Puis, quitte le château. Luc dit apeuré, il faut l'en empêcher. S'il donne la bourse à la police, nous sommes perdus. Et elle le suit. Sortent du château aussi.
C'est un orage terrible avec du vent. Yann est déjà parti avec son cheval. Luc va à l'écurie prendre le sien. Mais Jean derrière lui. Et ils partent au galop. Galop dans la nuit. L'orage gronde. Le vent souffle. Luc ne voit presque rien. Il n'y voit presque rien. Il galope, galope. Il voit être de loin une ombre. Il doit être le cheval de Yann. Il file, file. Ils sont trempés, épuisés. Fougueux. Enfin, ils arrivent à la ferme. Ils sont trempés sous l'orage. Yann est déjà arrivé, descente de cheval.
Luc et Jean sont descendus de cheval. Luc cria Yann, tu ne nous dénonceras pas. Yann lui dit, vous êtes déjà là? Mais vous m'empêcherez pas de vous dénoncer, criminel et bâtard. Et regarde sa sœur. Tu l'as toujours préféré à moi. Je te déteste. Je veux votre malheur. Vous ne serez jamais heureux ensemble. Je vous jure. Je vais vous dénoncer tous les deux. Luc lui dit, tu ne le feras pas. Yann s'avance. Luc lui fait face. Et qui m'empêchera de te faire du mal, de vous empêcher d'être heureux? J'ai la bourse, personne ne peut l'en empêcher. Il y a sur un morceau de bois une hache. Il la prend et lui dit, tu m'en empêches, je vous tue. Luc, furieux, fonce sur lui. Il lui donne un coup de poing au visage. Il va perdre l'équilibre à Yann. Luc, d'un geste brusque, prend la hache et la lève. Non ! Crie Jean. La hache s'abat sur le crâne de Yann, qui tombe à terre. Il n'a pas pu réagir, il était trop ivre. Et c'est parti trop vite. La hache reste enfoncée dans le crâne, le sang gicle. Le corps s'effondre à terre. Effrayé, Luc recule. Tout à coup, il se sent raidir. Froid tombe sur le dos, épuisé. Jean accourt, apeuré. Se penche, Luc, Luc, il est tout blanc. Il lui dit, je crois que je m'en vais. Il est de plus en plus sombre. Et lui dit, je crois que je vais mourir. Et lui en pleurant, non, non, ce n'est rien, t'es juste un peu fatigué, tu es juste un peu fatigué, ce n'est rien. L'orage est autour d'eux. Elle se penche vers lui. Il a les yeux fixes. Parle, parle, parle. Il ne peut bouger. Et lui dit, à cause de ce vide d'amour. Que nous avons pris. Je crois qu'il était trop fort, ce filtre d'amour que nous avons pris. Oh non, Luc. Il ne peut plus parler.
tonnerre. C'est le noir. Il ne bouge plus.
Non, tu n'es pas mort, mais ce n'est pas possible.
Et se couche sur lui, et pleure, ne sent pas l'eau qui ruisselle sur elle. Demain, elle aussi se sent raidir, le souffle court, elle ne sait plus.
Prends la main de Luc. S'allonge à ses côtés, le regarde et lui dit « Oui, le filtre d'amour était trop fort. »
Un éclair.
Le tonnerre. Elle est morte.
Leur corps reste enlacé sous l'orage. Puis, après l'orage, Un vent terrible qui balaye tout sur son passage. Luc et John sont allongés, enlacés. Leur âme a été emportée par le vent.
Vous venez d'entendre Sommet le vent, donc c'était la fin. J'ai commencé à écrire cette histoire le 1er février 2003. J'ai fini le 28 mars à 10h15 l'écriture, le samedi 29 et le dimanche jusqu'à 14h, j'ai préparé l'enregistrement VHS. J'ai commencé l'enregistrer le 30, dimanche 30 à 14h. J'ai fini l'enregistrement VHS le 19 avril 2003 à 11h20. Et je vais commencer à faire des copies en mini-disque. Cette émission sera peut-être diffusée et écoutée dans quelques années, peut-être dans 10 ans ou plus. Parce que j'ai beaucoup d'émissions d'avance et qui passent avant celle-là. Dans cette histoire, il n'y a pas de logique que celle de leur univers. Ce qui comptait, ce n'était pas la logique, mais de faire évoluer l'histoire où je voulais. Rien de plus. C'est pour cela que vous avez été surpris par la façon dont ils se comportaient et pensaient. Mais il ne faut pas oublier, c'est qu'ils vivaient dans un monde clos, celui de leur histoire, et que l'auteur ne voulait rien de plus. Et puis ce n'est qu'une histoire pour distraire, pour le plaisir du public, et c'est déjà beaucoup. J'ai fini d'enregistrer, de recopier en mini-disque le samedi 26 avril 2003 à 17h. A été écrite et préparée durant la guerre américano-irakienne. Quel qu'en soit le gagnant, parce que je ne le sais pas encore, ce n'est qu'une bataille. Et une bataille parce que la guerre est une guerre qui date depuis les années 1967. De toute façon, le monde occidental, dont nous faisons partie malgré que certains ne le veuillent, est perdu d'avance. Cette guerre est perdue parce que c'est la fin de notre civilisation, parce que nous ne croyons plus en ce que nous sommes, en notre différence. Nous nous autodétruisons nous-mêmes. Un peuple qui ne croit plus en ce qu'il est faible, perdant d'avance. À force d'universaliser ce que nous sommes et humaniser et banaliser la différence, on se nie. Voilà le pourquoi le monde occidental est perdu. Mais je ne crois pas que ce soit les Arabes qui prendront notre place. Ils ne sont pas assez diplomates, trop impulsifs. Je crois que ce sera les Orientaux, les Chinois, etc. Parce qu'ils sont plus diplomates, plus nombreux, ils ont la puissance, la technologie, et plus souples aussi. Pour eux, le temps ne compte pas. Parce que s'ils ont décidé une chose, s'il faut 100 ans pour la faire, ils attendront. Au XIXe siècle, lorsque les Occidentaux sont entrés en guerre contre la Chine et ont occupé et pris Hong Kong, les Chinois ont décidé de détruire les Occidentaux par la drogue et les idées nuisibles pour eux. C'est ce qu'ils ont fait et font. Mais de toute façon, nous sommes perdus d'avance. Et la France aussi. Et elle en premier, à cause de ses idées de droits de l'homme et de son universalité. Elle est plus nuisible que les autres. Et lui fait nier ce qu'elle est. Avant de finir, je peux vous dire autre chose, c'est que je ne peux plus faire de vidéo parce que j'avais un appareil qui faisait le chroma key de Sony. J'ai acheté il y a moins de 10 ans. Ça fait plus d'un an qu'il est en réparation chez Sony Pro. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le réparer. Tout même scandaleux qu'un appareil qui a coûté il y a 10 ans 65 000 francs, on ne peut pas le réparer. C'est une honte. Encore une chose, si vous avez entendu du bruit, c'est à cause de la personne qui est au-dessus de moi depuis juillet 2002 qui fait un bruit impossible. 24 heures sur 24, nuit et jour. Je ne peux pas dormir depuis juillet 2002. Il tire les meubles, tape des pieds, court. Cet homme a plus de 30 ans. 30 ans se porte comme un jeune de 15 ans. Il me réveille à 2h du matin. Le dimanche, il commence de 6h jusqu'à 2h du matin, sans arrêt. Il tire les meubles et court constamment chez lui, avec ses chaussures, et en sautant. Il tire les meubles en faisant grincer. Cet homme est insupportable. C'est un espèce de perro. Dégueulasse.
je vais écrire une histoire et il symbolisera la personne la plus désagréable qui soit.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
<t'en>